thank you very much. Merci beaucoup, Racha. Merci, Kuyo. Merci au AKV également d'avoir permis ces trois journées. Ces trois journées de rencontres entre académiques, chercheurs, cinéastes, curateurs, toute personne qui s'intéresse à cette histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord expliquer comment j'en suis venue en tant qu'historienne de la Russie à travailler sur ces échanges cinématographiques entre l'Union soviétique, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce petit détour un peu biographique me permettra d'ancrer cette histoire dans une histoire bien plus longue que celle des années qui commence dans les années 50 et qui se prolonge d'ailleurs encore aujourd'hui, mais de comprendre l'histoire de la formation de ces cinéastes dans une histoire bien plus longue, celle de la formation au métier du cinéma et celle aussi sur l'émancipation nationale, sur les luttes de libération nationale par le cinéma. Avant donc de m'intéresser à cette histoire que nous vous présentons aujourd'hui, j'ai travaillé sur la manière dont, dans les années 20 et les années 30 en Union soviétique, les responsables politiques en URSS ont voulu représenter dans les films les différentes nationalités d'Union soviétique, sachant que ces nationalités s'élevaient dans les années 20 et 30 à peu près 160 nationalités, donc des peuples aux cultures, aux langues, aux religions différentes. Et selon les autorités soviétiques, après la révolution de 1917, pour remédier aux injustices vécues à l'époque tsariste, chaque peuple avait le droit de s'exprimer dans sa langue et de représenter les spécificités de sa culture, de son mode de vie, et ce, dans différents supports médiatiques, que ce soit la presse. Donc on a vu des journaux en différentes langues apparaître dans les années 20, en yiddish, en arabe, dans les petites langues également du Caucase, d'Asie centrale, mais également on a vu au théâtre, différentes troupes de théâtre se créer dans les années 20 avec des acteurs de différentes nationalités. Et c'est également au cinéma qu'on a vu cette promotion culturelle s'épanouir. Alors le cinéma a été d'autant plus privilégié par le gouvernement soviétique qu'il s'agissait d'un art sensiblement nouveau. En 1917, le cinéma a 20 ans. Et qu'à ce titre, dans l'esprit des responsables de la propagande, le cinéma accompagnait la révolution, ce nouveau modèle politique en Union soviétique. Le cinéma permettait aussi de diffuser le même message politique venu de Moscou à des populations disséminées dans cet immense pays qui était l'ex-empire de Russie et qui devenu l'Union soviétique à partir de 1922, population majoritairement analphabète au lendemain de la révolution russe, et donc d'autant plus sensible, d'après les responsables politiques, aux images, et donc influençable aussi par les images. Or, le cinéma était difficilement accessible pour de nombreuses nationalités, pour différentes raisons. D'abord, l'électricité n'était pas accessible partout sur le territoire russe, donc il était difficile de projeter des films, et il fallait pour ça donc des cinémas ambulants qui se déplaçaient de ville en ville. Et également, le matériel pour faire des films était rare. Je rappelle qu'au moment de la révolution russe, beaucoup de cinéastes sont partis avec le matériel en France, en Allemagne, et que par ailleurs, les Russes ne produisaient pas de pellicules avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait un problème aussi de moyens techniques pour faire des films. Le cinéma est donc l'objet d'un intérêt particulier du gouvernement soviétique, à la fois comme outil de communication à destination de nationalités très différentes, mais également comme vitrine, parce que par les films, le gouvernement soviétique va également montrer quelle est sa politique d'égalité et de promotion de chacun, quelle que soit son origine, en Union soviétique. Et à ce titre, le gouvernement soviétique va promouvoir la production de films représentant donc différentes nationalités soviétiques, et avec l'idée également que pour promouvoir une image authentique de ces peuples, qui serait différente de ce que les empires coloniaux à l'époque faisaient comme film sur leur propre colonie et sur les populations qui habitaient leur colonie, les soviétiques ont pensé qu'il fallait mettre une caméra dans les mains de ces nationalités et donc de former au métier du cinéma les différentes nationalités d'Union soviétique, avec donc cette idée que seule une personne issue d'une culture serait capable de produire un film sur une représentation authentique de sa propre culture. Et pour accélérer ce mouvement, le gouvernement soviétique a créé des quotas dans les universités. Alors moi je parle du cinéma, mais c'est vrai dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Mais au VGIC, donc à l'Institut du cinéma de Moscou, ont été créés dès la fin des années 20 des quotas pour intégrer différentes nationalités et former des scénaristes, des réalisateurs, des opérateurs dans le cinéma soviétique. Également, le gouvernement soviétique a envoyé des équipes dans le Caucase, en Asie centrale, pour former sur place, organiser des stages, pour former des projectionnistes, parce que le tout n'était pas d'envoyer du matériel de projection, mais également de faire en sorte qu'il y ait des personnes capables d'utiliser ce matériel de projection. Et également, il y a eu des formations d'écriture de scénarios dès les années 20, auprès de Tchétchènes, de Daghestanais, d'écriture également de films auprès des populations d'Asie centrale. Alors, tout ce préambule par les années 20 et 30 pour bien vous faire comprendre que la politique de formation au métier du cinéma et la politique d'assistance cinématographique à destination des pays d'Afrique et du Moyen-Orient que l'Union soviétique va proposer dans les années 50 et 60 n'est pas complètement nouvelle, mais qu'elle s'inscrit dans une rhétorique déjà éprouvée 30 ans plus tôt. Et également ce préambule parce que de nombreux intellectuels africains et arabes connaissent l'histoire soviétique et revendiquent cette filiation soviétique de l'éducation par le cinéma. Tout comme en Union soviétique dans les années 20, en Afrique, au moment des indépendances, on considère le cinéma comme un outil formidable pour éduquer les populations majoritairement analphabètes. On estime que le cinéma, objet de modernité, doit accompagner le renouveau des sociétés africaines. Et enfin, il est essentiel que ce soit des Africains qui fassent ces films censés représenter cette société nouvelle. Alors, c'est ainsi que un des premiers à avoir reçu une formation en cinéma en Union soviétique, Semben Ousman, qui est un écrivain, qui devient par la suite cinéaste, et qui est formé pendant quelques mois au studio Gorky en 1961 avec le célèbre cinéaste soviétique Mark Donskoy, donc, que vous voyez ici à l'écran. Semben Ousman s'exprime ainsi, je le cite, dans les années 60, « Quand Lénine, dans les premières années qui ont suivi la révolution d'octobre, a dit « De tous les arts pour nous, le plus important de tous, c'est le cinéma », eh bien la lutte contre l'analphabétisme commençait à peine. Aujourd'hui, pour nous, en Afrique, les mots de Lénine sont pleinement d'actualité. Nous pouvons mettre en scène au cinéma d'importants problèmes sociopolitiques, la lutte contre le néocolonialisme, le passage d'une Afrique surannée à une Afrique nouvelle, et dans n'importe quel coin du continent où sera projeté le film, ces problèmes seront compris. » Donc on voit comme il y a une résonance à travers ce discours entre ce qui a pu se passer dans les années 20 en Union soviétique et ce qui se passe dans les années 50 au début des années 60 dans plusieurs pays d'Afrique auprès de certains intellectuels qui connaissent cette histoire. Alors, je voudrais rappeler que le cinéma, il existe en Afrique depuis la fin du 19e siècle, parce qu'on parle beaucoup depuis vendredi soir du cinéma des années 50, 60, 70, 80. Mais le cinéma, il apparaît quelques mois après les premières projections cinématographiques qui ont lieu à Paris en 1895. Et aller au cinéma fait partie des pratiques, fait partie des loisirs des citadins de plusieurs villes africaines déjà depuis l'entre-deux-guerres. Et cette pratique se renforce de manière très très importante après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une chercheuse, une historienne française, Odile Görg, qui a très bien décrit ces pratiques de loisirs dans son livre Fantomas sous les tropiques, que vous voyez ici, où elle montre à travers différentes archives et des témoignages comment on allait au cinéma et comment les films étaient reçus dans différentes villes d'Afrique occidentale et équatoriale. Alors, il existe différentes pratiques cinématographiques, que ce soit en Égypte, dans les anciennes colonies britanniques, françaises ou portugaises, ou encore italiennes. J'ai mis ici une photographie d'un cinéma construit à Asmara, en Érythrée, par les Italiens en 1937, pour rappeler aussi qu'il existe une architecture des salles de cinéma anciennes dans différents pays d'Afrique qui racontent, via cette architecture, une histoire du cinéma. On observe un point commun néanmoins concernant surtout le cinéma en Afrique francophone, c'est l'absence d'infrastructures de production cinématographique et le nombre très limité de professionnels du cinéma africain. Alors la situation était différente en Égypte ou bien dans les colonies britanniques où des mini-structures de production comme au Soudan ont pu être conçues. Il faut dire que les puissances coloniales, si elles ont développé des circuits de diffusion pour distraire les colons et, dans une certaine mesure, les populations colonisées, et si elles ont laissé des entrepreneurs de cinéma privés gérer la distribution des films, elle n'a néanmoins pas permis la manipulation d'appareils cinématographiques par des Africains ou par toute personne sur le sol africain, de peur que ces personnes critiquent le système colonial. Et ceux qui s'y sont essayés et qui ne sont pas africains, tel René Vautier dans son film Afrique 50, ont vu leurs bobines en partie confisquées et leurs films par la suite censurés. Alors, le début des années 50 marque néanmoins un tournant. D'abord, l'ouverture du premier institut de formation au cinéma, l'IDEC, donc l'Institut des hautes études cinématographiques, qui est créé à peine la Seconde Guerre mondiale finie à Paris, va voir l'arrivée de plusieurs étudiants originaires des colonies françaises, surtout du Maroc et de Tunisie, et oui, après les indépendances, ce mouvement va s'accélérer. Vous le voyez ici, j'ai fait une liste qui est incomplète, mais juste pour vous donner une idée de la provenance de ces étudiants et des dates qui correspondent finalement à la venue de ces premiers apprentis cinéastes. Le premier africain est Ahmed Belhachmi qui arrive en 1949 à l'IDEC, et par la suite vous avez d'autres cinéastes marocains de ce qu'on appelle appelait à l'époque le Dahomey, Paulin Vera, qui est véritablement une des figures les plus marquantes de ce renouveau, de cette naissance du cinéma africain, qui revendique véritablement la création d'un cinéma africain par des Africains. Et progressivement, des cinéastes de Tunisie, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Haute-Volta ou du Cameroun qui viennent faire leur formation au métier du cinéma à Paris à la fin des années 40 et début des années 50. Du côté britannique, on voit également émerger certaines personnalités à l'image du réalisateur soudanais Gadala Gobara, formé au Caire, puis à Londres par les Britanniques, sachant que les Britanniques avaient donc conçu une unité cinématographique au Soudan pendant avant la décolonisation, où certains Soudanais avaient déjà reçu donc une première formation au métier du cinéma. Alors, comme l'a dit hier mon collègue et ami Constantin Katsakioris, l'Union soviétique se positionne au moment des indépendances comme un interlocuteur privilégié avec les acteurs des pays devenant indépendants. Et on parle généralement de l'aide militaire que l'Union soviétique a pu apporter à ces pays dans le cadre de la guerre froide. Mais les aspects culturels et artistiques, on l'a vu ici, vous l'avez peut-être vu dans une autre exposition qui a eu lieu également récemment au AKV, les aspects culturels et artistiques ont été également très très importants dans cette coopération. L'Union soviétique apporte à partir de la fin des années 50 un soutien dans des domaines aussi variés que le développement du sport. Il y a beaucoup d'équipes de football en Afrique qui ont été subventionnées par l'Union soviétique, mais également dans le domaine de la danse, de la musique, des arts picturaux et également donc dans le cinéma que l'Union soviétique a apporté une aide très importante. Vous le voyez dans cette affiche « Bonjour Afrique », il y a toute une production d'affiches d'art pictural qui célèbre justement ce soutien de l'Union soviétique aux pays qui accèdent à l'indépendance. Alors pourquoi le cinéma a fait l'objet d'un intérêt particulier aussi bien du côté soviétique que du côté des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient? Alors du côté soviétique, cette aide, elle peut s'expliquer à la fois par des considérations politiques et économiques. Politique parce que il s'agit pour l'Union soviétique de diffuser l'idéologie communiste à un nombre de pays très très vaste et de convaincre de la supériorité du modèle communiste sur le modèle capitaliste. Mais on a souvent tendance à réduire l'histoire du cinéma soviétique à une histoire de propagande, à une histoire politique. Or, la dimension économique a toujours été essentielle dans le développement du cinéma soviétique, et ce, dès les lendemains de la Révolution. Et il faut bien avoir à l'esprit que les films soviétiques étaient peu diffusés dans les colonies, par exemple françaises, parce que les autorités coloniales essayaient de restreindre justement la diffusion de l'idéologie communiste. Mais néanmoins, certains des films soviétiques étaient diffusés via des ciné-clubs qui étaient très bien organisés et qui étaient assez influents, même avant les décolonisations. Mais donc l'indépendance va permettre justement de décloisonner ce mur concernant les films soviétiques. Et donc un nouveau marché s'ouvre pour l'Union soviétique concernant la diffusion des films. Et donc c'est la possibilité aussi de nouvelles rentrées d'argent. Du côté africain, cette aide est la bienvenue, D'une part, parce qu'il est très important pour les autorités africaines de se dégager d'une relation exclusive et binaire avec l'ancienne colonie française ou britannique, et donc de diversifier les partenaires, même si il ne s'agit pas d'un gouvernement d'obédience socialiste. Et également parce que le cinéma soviétique est très réputé, la formation of Geek est également très reconnue, qu'il n'existe pas encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale tellement d'instituts de formation au métier du cinéma, et puis parce que l'Union soviétique offre les moyens d'une part de diffuser des films au plus grand nombre dans leur propre pays, dans le souci d'éduquer, mais également de former des cinéastes africains. Alors, c'est ainsi que plusieurs accords de coopération vont être signés entre l'Union soviétique et plusieurs pays d'Afrique. Accords de coopération qui concernent à la fois donc, des domaines économiques, militaires, mais culturels. Vous avez ici deux photographies de Sékou Touré qui se rend à l'automne 1959 en Crimée pour rencontrer Nikita Khrouchtchev et signer donc ces premiers accords. Par la suite, d'autres accords seront signés avec différents pays. 16 pays d'Afrique en 1961 ont déjà signé des accords de coopération culturelle avec l'Union soviétique, dont la Tunisie, le Maroc, la Guinée, le Ghana, l'Éthiopie ou la Somalie, par exemple. Alors, avant même que Semben Ousmane vienne faire ses premiers pas dans le cinéma à Moscou, ce sont deux Guinéens qui sont les premiers cinéastes, du moins d'après les sources que j'ai trouvées, à avoir été formés au métier du cinéma à Moscou. Donc, Sékou Touré envoie deux jeunes hommes en 1959, Bob Sow, de son vrai nom Sow Mamadou. Je ne connais pas sa date de naissance, mais par contre je sais qu'il a été assassiné en 1970, et Touré Khalil, qui viennent faire un stage au studio du film documentaire à Moscou, et ils sont formés par deux grandes personnalités du cinéma soviétique, Alexandre Medvedkin et également Kirill Nikitin. Et il réalise un premier film documentaire qui s'intitule « Cet hiver-là à Moscou » et qui est un film sur les étudiants africains, les premiers étudiants africains à Moscou. Hélas, je n'ai pas retrouvé encore ce film dans les archives en Russie, mais je ne désespère pas. Toujours dans le cadre de cette assistance, l'Union soviétique envoie également donc des appareils de projection pour diffuser des films non seulement soviétiques, mais également des films français et des films guinéens lorsqu'ils seront produits. Et donc, vous avez ici la photo d'Andrei Tarelin, donc qui est un diplomate soviétique, qui accompagne ces 10 appareils de projection et qui reste quelques mois à Conakry pour former au métier de projectionniste des Guinéens. Donc vous avez ici ces projectionnistes, ces étudiants projectionnistes qui entourent Andrei Tarelin. À partir de ce moment-là, dans le cadre donc, des échanges politiques, économiques, culturels et éducatifs qui vont être de plus en plus importants et qui animent les relations entre l'Union soviétique et ses différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient, on observe l'intégration de plus en plus importante de jeunes Africains dans les filières de formation cinématographique et aussi des étudiants donc, originaires du Moyen-Orient, surtout d'Irak dans les années 60 et par la suite des étudiants également de Syrie ou de Palestine. Les années 60 sont surtout marquées par la formation de jeunes étudiants originaires de Guinée, d'Éthiopie et également du Maroc. Vous le voyez ici, ce sont les photos que j'ai pu retrouver des cartes d'étudiants de ces différentes personnalités. Donc vous avez ici Michel Papatakis, donc qui est diplômé en 1955, qui est considéré comme le premier cinéaste éthiopien, à ne pas confondre avec Nikos Papatakis, c'est le frère. Également Tereken Getachew, également un cinéaste éthiopien, donc diplômé du FGIC en 1966. Et parmi les Guinéens, Costa Diagne, diplômé en 1966, dont Jihan El Talri parlera tout à l'heure, Sila Imi, diplômé en 1967, Touré Mandiou, également diplômé en 1967, ou bien Abbas Al-Shala, un étudiant d'Irak, diplômé également dans les années 60, ou bien le Marocain Abderrahmane Mouline, diplômé en 1967. Alors, tous ces Guinéens que je présente ici ont tous été les initiateurs par la suite de la principale institution du cinéma, Sili Cinéma, qui a été créée dans les années 60, dont vous voyez ici l'emblème, et qui était donc organisée grâce à tous ces étudiants qui avaient été formés dans le bloc de l'Est. Alors, ces étudiants ont pour la plupart été envoyés par leur gouvernement pour étudier tout spécifiquement le cinéma, et ils bénéficient tous d'une bourse du gouvernement soviétique. Je peux vous dire exactement, c'était 90 roubles par mois, ce qui était une somme assez conséquente, qui était une bourse plus importante que celle que les étudiants soviétiques avaient, ce qui crée des jalousies souvent entre étudiants. Mais ces étudiants viennent aussi parfois de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils font une demande personnelle. Ça a été le cas, par exemple, du cinéaste malien Souleymane Cissé, qui a été soutenu par son gouvernement, mais c'est une demande personnelle qui l'a conduit à Moscou. Et de même, je voudrais souligner que beaucoup de ces cinéastes qui sont passés par le FGIC sont parfois venus à Moscou sans savoir qu'ils voulaient faire du cinéma. Ils sont venus en URSS parce que c'était le moyen d'avoir une bourse et d'étudier. Et c'est souvent lors de leur première année de formation qu'ils ont découvert le cinéma, parce que lors de cette année préparatoire, ils apprenaient le russe. On leur faisait découvrir aussi différentes disciplines, et certains d'entre eux avaient des cours de cinéma. Et c'est comme ça que certains ont décidé, en découvrant le cinéma soviétique, de faire une formation au métier du cinéma. Alors, arrivé en Union soviétique, comme tous les autres étudiants étrangers, donc il devait passer par cette année préparatoire. Vous l'avez vu pour ceux qui étaient là hier dans le film de Abderrahmane Sissako, Rostov Luanda. Donc Abderrahmane Sissako passe un an à Rostov pour étudier le russe. Et c'était le cas de la plupart de ses étudiants. Ils n'étudiaient pas forcément la langue à Moscou, mais ils étaient parfois dans une autre ville de l'Union soviétique où ils étudiaient le russe. Et par la suite, ils intégraient, s'ils avaient réussi le concours du FGIC, l'institut, donc cet institut de cinéma. Je souligne également que pour la plupart de ces étudiants, ce n'est l'année préparatoire pendant laquelle ils avaient des cours de russe ne suffisait pas, et les cours de russe continuaient après. J'ai fait quelques entretiens avec ces anciens étudiants qui m'ont raconté que les premiers mois au FGIC étaient parfois très difficiles parce qu'il n'y avait aucun traitement de faveur à leur égard. C'est-à-dire que les enseignants parlaient russe pour tout le monde sans faire d'effort de parler lentement, et il fallait s'accrocher pour pouvoir véritablement tout comprendre. Et puis très vite, au bout de quelques mois, ils arrivaient à saisir tout ce que l'enseignant disait. Et ce que ça me permet de rappeler également que ces étudiants étaient donc dans des groupes d'une quinzaine de personnes, une quinzaine d'étudiants venant du monde entier, d'Union soviétique, mais également de l'étranger. Alors vous voyez ici sur ces photographies des étudiants dans les années 60, entourés de leur enseignant Anatoli Stabilini. Et on voit des cinéastes, enfin des étudiants à la fois irakiens, asiatiques, africains. C'était une vraie rencontre de culture dans ces ateliers. Alors, ces étudiants pouvaient choisir différentes filières de formation au sein du FGIC. Soit ils devenaient réalisateurs, caméraman, scénariste, critique de cinéma ou bien décorateur. Et au bout de 5 ans, ils pouvaient être diplômés. En fait, très souvent, ces étudiants restaient un peu plus longtemps, soit parce que certains ont choisi de faire une thèse, donc de travailler sur un sujet particulier. D'autres ont décidé de multiplier les stages dans des studios de cinéma. Et en fait, ils ont resté pour la plupart entre 6 et 7 ans en Union soviétique. Alors, les cours qu'ils suivent évoluent en fonction du contexte politique, social, intérieur et extérieur à l'Union soviétique. Alors là, j'ai juste une photographie d'un de ses étudiants, Kostadian, dont on reparlera plus tard. Mais ici, j'ai une photographie donc de Mohamed Aboulouayakar, qui est ici avec nous. Donc c'est la photo de sa carte d'étudiant. Donc Mohamed, qui a étudié au FGIC de 1966 à 1971. Et hier, Constantin Katsakioris nous a dit que jusqu'en 1968, tous les cours un peu idéologiques étaient optionnels. Et en fait, ils deviennent obligatoires à partir de 1968 du fait du printemps de Prague, des événements de Prague qui ont une répercussion en fait sur le suivi idéologique des étudiants en Union soviétique. Alors, ici, j'ai retrouvé les cours que Mohamed a suivis au FGIC. Et donc, vous le voyez, il y a beaucoup de cours qui concernent effectivement l'idéologie. Donc, il y a des cours de philosophie marxiste-léniniste, d'histoire économique selon le marxisme-léninisme, de communisme scientifique, athéisme scientifique, mais également des cours de culture générale, de psychologie, histoire de l'art, de littérature étrangère, de musique, donc théorique, et aussi de littérature qui concerne la musique, ou bien de langue russe, et également donc bien entendu des cours plus spécifiques sur la formation métier du cinéma, avec la réalisation pour le cinéma ou la télévision, ou bien du montage, sur le discours également, sur la dramaturgie, sur la manière de filmer un film, sur le jeu d'acteur, sur aussi les questions de production, sur les questions économiques liées à la réalisation d'un film, ou bien encore sur l'histoire du cinéma étranger. Ce petit panel des cours pour vous montrer la diversité et la richesse de cet enseignement qui est souvent réduit à, pour ceux qui ne connaissent pas ces parcours, à juste un endoctrinement idéologique, ce qui était loin d'être le cas, comme le montrent ces différents cours auxquels avaient droit ces étudiants. Alors, dans ces cours, ces étudiants étaient loin d'être passifs, et chaque étudiant venant d'un pays de l'étranger devait également réaliser des exposés pour faire connaître son pays. Et vous le voyez ici, nous avons donc à gauche l'étudiant guinéen Sila Imi qui fait un exposé sur l'Afrique. on le voit derrière avec une carte, ou bien à droite, une photographie d'un étudiant qui fait une démonstration donc d'une musique de son pays. Donc les étudiants étaient aussi invités à faire participer, à faire connaître leur culture aux autres étudiants du FGIC. Ces étudiants participaient également aux différentes célébrations qui avaient lieu au sein du FGIC. Vous avez ici, par exemple, pour les 60 ans du FGIC, donc en 1979, des étudiants qui s'étaient costumés dans des habits traditionnels de leur pays, qui avaient donc défilé pour cet anniversaire. Les cours n'avaient pas lieu uniquement au FGIC, mais également en extérieur. Il y avait beaucoup aussi d'exercices pratiques. Et vous le voyez par exemple sur cette photographie, ce sont des étudiants qui ont des appareils photo et dont l'exercice était d'aller à la manifestation du 9 mai, qui est l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, pour photographier les manifestants. Donc il y avait des exercices pratiques réguliers qui avaient lieu en dehors de l'Institut. Et également, nous y reviendrons sans doute, la formation de ces étudiants passait par la projection de films. Ils regardaient énormément de films au sein du FGIC, et pas seulement des films soviétiques, mais des films français, italiens, indiens, japonais, qui formaient leur regard sur le monde et sur leur manière à eux de faire des films. Alors cette photo que vous voyez là, il n'y avait pas d'indication derrière. Donc je ne sais pas à quoi elle correspond, mais je peux imaginer qu'il s'agit justement d'une séance de cinéma où les étudiants se pressent pour regarder un film. Mais peut-être ici les cinéastes présents pourront me dire s'ils reconnaissent ce moment. Alors la validation des années d'études se faisait par un travail, par plusieurs travaux pratiques, soit l'écriture et la réalisation de plusieurs films. Il en a déjà été question hier et avant-hier. Par exemple, dans la filière mise en scène, les étudiants devaient, dès la première année, réaliser un court-métrage muet en 16 mm. Et en troisième année, ils devaient effectuer un stage dans un studio de production en Union soviétique et réaliser un film en 35 mm. Puis en cinquième année, il devait réaliser un film de diplôme, dont vous en avez vu déjà certains, et nous allons vous en montrer d'autres par la suite. Alors les apprentissages variaient hein, d'un atelier à un autre, d'un enseignant à un autre, et un cinéaste algérien, Jean-Pierre Ledo, avec qui j'ai fait un entretien et qui a étudié au FGIC dans les années 70, m'a raconté que le premier cours qu'il a eu avec le grand cinéaste Mikhaïl Rom s'est passé de la manière suivante. Mikhaïl Rom leur a dit: qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous fasse un cours de mise en scène, ou vous voulez que je vous raconte comment on faisait du cinéma en Union soviétique dans les années 20 et 30? Et tous les étudiants ont dit: non, on veut savoir comment travaillait Eisenstein, Poudovkine, comment vous avez fait du cinéma avec presque rien dans les années 20 et 30. Et c'est ainsi que la formation au cinéma est d'abord passée par cette histoire du cinéma soviétique des années 20 et 30. Et ce n'est que par la suite que Rom les a initiés à la mise en scène avec une caméra 16 mm. Et lors de cette première année, donc chaque étudiant faisait un petit film, et le petit film était montré aux autres étudiants qui débattaient de la manière dont le film avait été fait, comment il aurait pu être amélioré. Donc la relation entre l'enseignant et l'étudiant est souvent très forte, et plusieurs documents d'archives que j'ai pu retrouver attestent parfois de sentiments filiaux qu'éprouvent ces étudiants à l'égard de leur enseignant. Ainsi, le Guinéen Touré Mandiou a écrit dans son rapport de fin d'études en 1967 qu'il doit absolument tout à Léonide Christie, qui fut pour lui à la fois un père et un enseignant. Et le cinéaste malien Souleymane Cissé écrit dans son rapport qu'il exprime toute sa gratitude à son maître Boris Volchek. Donc, bien que ce soit des rapports de fin d'études, donc à considérer avec précaution par l'historien, c'est quand même quelque chose que je retrouve régulièrement, cette admiration et ce sentiment de gratitude que de nombreux étudiants éprouvent pour leur enseignant. Alors, une grande partie de la formation des étudiants du FGIC, donc, était de voir des films également d'en réaliser. Et il est très intéressant de se pencher sur la production cinématographique de ces étudiants. Et on comprend à quel point, à travers ces films, chacun d'eux a su développer sa propre intériorité, a su aiguiser son regard pour mieux voir le monde. La réaction, souvent, quand je présente mes recherches à un public d'initiés, c'est de dire « oui, bon, les films de ces étudiants, c'est des films de propagande, c'est ça ?» J'essaye alors toujours de revenir sur ce qu'on entend par du cinéma de propagande. Est-ce parce que l'État était le seul producteur en Union soviétique qu'on observe un seul type de cinéma ? N'y a-t-il pas derrière les films de Sergei Eisenstein, de Mikhail Rom, de Grigory Tchoukraï ou bien d'autres, une diversité de regards malgré le discours idéologique que l'on retrouve ? Parce que derrière chaque artiste, il y a une sensibilité différente qui s'exprime tout en intégrant à plus ou moins grande dose le message politique dominant. Il en va de même pour ces étudiants. Alors bien sûr, il est possible d'établir certains regroupements sur ces étudiants. Il y a des cinéastes militants qui l'étaient même avant de venir en Union soviétique, comme ça a été le cas par exemple pour l'Éthiopien Michel Papatakis. Son film de fin de diplôme, août 1927, réalisé en 1965, traite de la condamnation à mort de deux anarchistes d'origine italienne aux États-Unis dans les années 20. Ou encore, beaucoup de ces étudiants parlent aussi de leur vie, de ce qui les concerne, à savoir la lutte anticolonialiste. Et vous avez ici, par exemple, une photo d'une étude du film de fin de diplôme de Abderrahman Mouline, donc qu'il a réalisé dans les années 60. Ici, vous avez également une photo d'une étude du film en préparation de jeunes cinéastes irakiens qui également traitent des luttes anticoloniales. Donc on voit effectivement des films très engagés. Mais d'autres étudiants au FGIC qui avaient, il faut le rappeler, une petite vingtaine d'années quand ils sont arrivés en Union soviétique et qu'ils ont intégré le FGIC, leur appartenance politique ou leur engagement restait encore à envisager. On peut néanmoins observer dans leurs films de fin d'études un recours à ce que je pourrais appeler un réalisme social et non socialiste, qui prend ses racines aussi bien dans une influence soviétique que dans la littérature russe du XIXe siècle, ou encore dans le néoréalisme italien. Dans la plupart des rapports de fin d'études que j'ai pu trouver de ces étudiants à propos de leurs films, j'ai retrouvé le souci de leur part de donner à voir la réalité de leur pays et de leurs compatriotes. Touré Mandiou, ce cinéaste guinéen, écrit ainsi dans son rapport « Je veux être réalisateur de films documentaires pour montrer la vraie vie des travailleurs et des paysans de Guinée. » Quant à Souleymane Cissé, dans son film « L'étudiant », il montre comment un étudiant africain qui étudie la médecine en Union soviétique est tiraillé entre l'héritage de la médecine traditionnelle de son village et la modernité occidentale. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve de manière récurrente dans de nombreux travaux de ces étudiants. On le verra tout à l'heure avec le film de Costa Diagne, Les hommes de la danse. Mais outre ces questions sociales, de nombreux étudiants se sont passionnés par la réalisation de films noirs. Et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs comme des étudiants soviétiques, ont réalisé des films d'après la nouvelle d'Ernest Hemingway, Les Tueurs. Parmi eux, Andrei Tarkovsky, dans une version de 1954, mais également Mohamed Aboulwekar, donc on va voir ce film, ou encore l'Éthiopien Tereken Getachew. Et la littérature sert énormément ces étudiants, entre autres les nouvelles. Et Costa Diagne, par exemple, réalise, d'après la nouvelle d'Alberto Moravia, Tropa Rica, donc trop riche, son film de fin de diplôme, La femme, que vous allez voir aussi tout à l'heure. Donc on voit comment la littérature nourrit également ses étudiants. Alors pour conclure, il est difficile de donner des chiffres exacts sur le nombre d'étudiants africains et moyen-orientaux qui ont étudié au GIC de la fin des années 50 jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Je sais qu'il y a eu en tout 11 Guinéens, 11 Éthiopiens, 25 Irakiens, peut-être autant, voire plus de Syriens, 4 étudiants originaires de la République démocratique du Congo. Et j'en oublie énormément. J'estime ces étudiants à peu près 150. Sachant qu'aujourd'hui, je ne vous parle que des étudiants du VGIC, mais que d'autres ont été formés dans d'autres institutions de formation au métier du cinéma, entre autres l'Institut du cinéma de Leningrad, le LIKI, qui a formé de nombreux techniciens du cinéma, ou également dans le département de cinéma de l'Université de Kiev, sans parler de ceux qui ont été formés dans les écoles comme à Prague, à la FAMU, ou bien à Łódź, en Pologne, ou bien en Allemagne de l'Est. Leur parcours a été singulier, parsemé pour certains de difficultés, subissant pour beaucoup le racisme, dans ce qui devait être pourtant la patrie de l'amitié des peuples, et tout en créant parfois des amitiés indéfectibles avec des soviétiques ou avec d'autres étrangers. Ces étudiants étaient beaucoup moins nombreux que ceux qui ont étudié la médecine ou bien qui ont étudié dans des formations pour être fonctionnaires, ingénieurs. Mais pourtant, tous ou presque ont joué un rôle capital pour le développement de leur cinéma national. Et il est important, d'après moi, de révéler cette histoire qui permet de restituer une part du patrimoine cinématographique de ces pays. Et il est aussi très intéressant, dans une perspective d'histoire du cinéma, de comprendre quel est l'héritage de cette formation chez les cinéastes encore actifs et ceux qui viendront demain. Je vous remercie.